9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 et on est ensemble pendant 2 heures, vous le savez, au quotidien pour faire le tour de la question avec vos témoignages qui seront très éclairants, notamment sur le premier sujet. Rebonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Car nous avons pour l'illustrer besoin de vos ressentis, de vos sentiments, de votre expérience. Comment l'État se prépare-t-il à affronter le vieillissement de la population, la prise en charge de la dépendance? Avec un rapport remis en ce sens à la ministre de la Santé aujourd'hui qui tente de privilégier le maintien à domicile des personnes dépendantes, à valoriser les métiers d'aidant. Comment aider, comment guider les familles aujourd'hui dans les différents choix et quelle politique globale sur le sujet, surtout qu'appellent les différents acteurs de cet univers. On vous écoute, le standard est ouvert dès maintenant Julie.
Le 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, l'art de la parole en question sur Europe 1. Pourquoi les jeunes plébiscitent aujourd'hui les fameux concours d'éloquence? Vous avez peut-être vu cette émission Grand Oral sur France 2 qui participe de cette tendance. Parler en public, multiplier les joutes verbales et les épreuves d'oral au bac dit beaucoup de notre rapport au verbe aujourd'hui. C'est pas simple, c'est pas forcément inné, mais c'est passionnant et ça nous fait grandir en effet. On fait le tour du sujet, là encore, c'est le sommaire jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec cette question d'abord qu'on vous a posée et on va relayer un certain nombre de vos témoignages, se prépare-t-on pour vous suffisamment au vieillissement de la population alors que les générations du baby-boom vont entrer dans le grand âge à partir de 2030? Et c'est donc à ce défi majeur que veut répondre le rapport remis aujourd'hui au gouvernement avant une loi peut-être votée d'ici à la fin de l'année. Nous sommes avec nos invités, Romain Gisolme, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Avec Vincent Touzet, économiste à l'OFCE, bonjour à vous.
Bonjour.
Responsable du pôle enjeux économiques du vieillissement démographique. Pour bien comprendre justement les enjeux, il faut poser le sujet. En 2030, c'est-à-dire demain, dans 10 ans, pour la première fois en France, les plus de 65 ans dans notre pays seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Et ça, c'est un équilibre qu'on n'a jamais connu et c'est un équilibre qu'on n'a pas su non plus anticiper. C'est la réalité. Vincent Touzet.
Alors, bon, d'abord, c'est un équilibre qui est une bonne nouvelle, parce que s'il y a autant de plus de 65 ans, c'est que les gens vivent plus longtemps. Mmh. Après, c'est l'autre conséquence aussi du baby-boom, donc ils étaient plus nombreux au départ et ils vivent plus longtemps. Après, mal anticipé ou bien anticipé, ça peut se discuter, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre de réformes, les retraites, il y a quand même un nombre de réformes qui ont permis de...
L'allongement de la durée du travail, notamment.
Tout à fait, mmh. Et donc ça a quand même permis aussi de contenir la dépense publique des retraites. Et après, sur quand même la dépendance, il y a eu un certain nombre de mises en place de mesures publiques, de financement public, qui ont été anticipées. La question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin face à un doublement, à un horizon de 40 ou 50 ans du nombre de personnes dépendantes. Donc mmh. Là, effectivement, il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent pour les 20, 30, 40 prochaines années.
Simplement, quand on interroge nos auditeurs, et Julie va vous donner quelques réactions, lorsqu'on leur demande si on se prépare suffisamment au vieillissement de nos populations, la réponse est sans appel, Julie, aujourd'hui.
Non, à 94%.
Voilà, c'est quand même le ressenti, Romain Gisolme. Comment vous l'expliquez?
Bien sûr. Alors d'abord, Vincent Touzet a raison de rappeler que c'est une bonne nouvelle, effectivement, que nous puissions vivre de plus en plus longtemps.
Oui, bon, bah d'abord, dans quelles conditions et avec quel argent?
D'abord, individuellement, plutôt bien, puisque 80% des plus de 80 ans vont plutôt bien et n'ont pas besoin d'être accompagnés. Donc, les gens vieillissent plutôt bien. Et ça, c'est
et à
une
la maison,
chance individuelle.
Hein, pour la plupart,
et
pour la majorité.
C'est aussi une chance collective, parce que c'est un vrai potentiel de création d'emplois, de développement d'activités économiques, etc. Donc, ça peut être une vraie chance pour notre société.
D'accord.
Ensuite, est-ce qu'on y est suffisamment préparé? Aujourd'hui, non, clairement pas. Notre pays a pris un retard considérable depuis 20 ans qu'il convient effectivement de combler. Là, la ministre va se voir remettre un rapport, là, très incessamment sous peu, aujourd'hui, dont nous pouvons espérer qu'il engage enfin cette grande réforme qui est attendue depuis 15 ans dans le secteur et qui permettrait effectivement d'engager les investissements nécessaires, investissements notamment socio-économiques qui oui. permettront à la fois de concilier les impératifs éthiques, c'est-à-dire mieux accompagner les personnes âgées, vous avez raison Wendy Bouchard, à domicile et en établissement, et en même temps permettre de concilier aussi les impératifs économiques, c'est-à-dire créer ces centaines de milliers
mais oui,
d'emplois.
Oui, on a quand même une équation que je livre à l'économiste. On a 3 millions de chômeurs et on a ici un secteur qui est sous-doté et qui est un secteur d'avenir en matière d'emploi. C'est là où le paradoxe est inquiétant quand même, Vincent Touzé. Et où je parlais de mauvaise anticipation peut-être.
Sur l'économie du vieillissement, il y a deux aspects. Je dirais, il y a ce qu'on appelle la silver economy qui va bien au-delà de la question des personnes dépendantes, qui englobe aussi le travail des seniors. C'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de plus de 60 ans de travailler plus longtemps. Donc ça, c'est une force aussi économique. Nouvelle, c'est les gens seront en mesure de travailler plus longtemps.
Oui, vous ajoutez tous ceux qui ont pris leur retraite et qui travaillent encore.
Voilà. Et puis, il y a tout le fait aussi que le temps libre des retraités qui se traduit aussi par des besoins économiques nouveaux, qui se traduit aussi par une force de travail nouvelle qui peut être l'engagement auprès de leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et parfois aussi, à 60 ans, on peut avoir un parent dépendant. Donc aussi, ce temps libre peut être mis à disposition aussi de la famille. Et après, voilà, il y a l'économie du vieillissement très, très tardif, c'est-à-dire l'entrée en dépendance, là qui concerne la fin de vie, puisque l'entrée en dépendance est autour de 83 ans pour une durée de vie moyenne de 3 ans et demi. Donc là, effectivement, le rapport grand âge va se focaliser sur ces dernières années de vie qui sont peut-être pas forcément les plus belles années, mais qui peuvent aussi se traduire par un bien vieillir si c'est anticipé, s'il y a un effort socio-sanitaire pour favoriser la prévention face au vieillissement.
Mais est-ce qu'on a négligé aujourd'hui, puisque vous parlez de la silver economy, c'est-à-dire la force de pouvoir d'achat des seniors aujourd'hui qui voyagent beaucoup, qui achètent aussi, qui ont capitalisé, voilà. À partir de 83 ans, on n'est plus là-dedans. On a des gens qui coûtent plus à la société, ça je caricature, qui ne rapportent parce qu'ils sortent moins de chez eux, ils participent moins de l'économie. C'est comme ça que les gens voient les choses. C'est pas la réalité.
Ils y participent largement.
Évidemment.
Parce que quand on voit le coût payé pour un mois passé en établissement pour personnes âgées,
une fortune.
Ça coûte très cher.
2 500 euros en moyenne.
Ça participe de l'économie française. Quand on voit effectivement le coût de l'accompagnement à domicile, ça participe de l'économie française. Et puis, si effectivement l'enjeu c'est de mieux accompagner les gens au quotidien, c'est aussi de leur permettre justement de pouvoir se réaliser et donc de pouvoir continuer à avoir une vie culturelle, de pouvoir continuer à sortir, etc.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'on considère nos plus de 83 ans comme des gens qui ne sont plus utiles à la société et qu'on part certains dans les maisons de retraite.
Alors qu'ils y participent largement et que si nous les accompagnons mieux, si notre société fait en sorte de mieux les accompagner, de mieux les intégrer, de mieux leur permettre de participer, ils y participeront encore plus.
Alors on va, juste après la pause, déjà poser les choses de ce système un peu binaire en France. On a une majorité de seniors de plus de 80 ans, on va dire, qui vieillissent bien et tranquillement à la maison avec des auxiliaires de vie, avec des aidants. Et puis, on a à peu près 1 million de personnes aujourd'hui qui vivent en établissement, maison de retraite. Il faut peut-être trouver des structures intermédiaires. Vous allez nous le dire, si vous y travaillez notamment, n'hésitez pas à nous appeler au Standard Europe 1. Et messieurs Romain Gisolme et Vincent Touzé, décryptez-nous aussi cette réalité. A tout de suite pour parler de la dépendance en question et de la manière dont on peut bien l'encadrer aujourd'hui en France.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Comment bien prendre en charge la dépendance en France ? Un auditeur nous dit sur Facebook, il s'appelle Gilbert. Nicolas Sarkozy avait promis une grande loi, François Hollande également, mais toujours rien.
Ah, ça c'est vrai, Romain Gisolme, mais voilà pourquoi tout le monde est accroché aujourd'hui à la philosophie sur le sujet d'Emmanuel Macron, qui lui aussi a promis vraiment un big bang en la matière.
Et une grande loi autonomie, effectivement, en 2019, parce que oui, tous les gouvernements ont fait un petit peu, Vincent Touzé le rappelait, tous les gouvernements successifs, sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande, etc., ont fait un petit peu, mais jamais autant que nécessaire pour rattraper le retard et puis compenser également l'augmentation du nombre de personnes âgées et puis l'augmentation des besoins, des attentes auxquelles il faut répondre.
Aujourd'hui, on a 1 400 000 personnes en situation de dépendance, Vincent Touzé, plus ou moins la moitié en établissement, en EHPAD, l'autre moitié à la maison, avec des besoins de financement de la dépendance qui sont assez impressionnant et évidemment exponentiel, entre 11 et 25 milliards d'euros à l'horizon 2030. Et la dépendance, c'est le dossier, relaie la presse aujourd'hui, qui menace un peu nos retraites. Car il faut de l'argent, où trouver ce financement ? C'est bien la question qui se pose.
Alors, où trouver le financement ? Aujourd'hui, il y a une capacité de financement public qui, si on regarde à peu près au niveau macroéconomique le bilan, qui couvre à peu près 80% des dépendances liées à les dépendances.
Sachant qu'il y a avec trois... l'aide à la dépendance, hein, l'APA.
Voilà, sachant qu'il y a trois niveaux de charges liées à la dépendance et une surconsommation de dépenses de santé. C'est-à-dire qu'on est en état cognitif et physique dégradé, ça engendre des dépenses nouvelles. Il y a des dépenses aussi, de perte d'autonomie. Donc, il faut accompagner la personne dans sa perte d'autonomie. Donc, il y a un certain nombre de dépenses. Donc, ça peut être des aides ménagères, ça peut être aussi des équipements techniques. Et ensuite, l'hébergement. C'est-à-dire qu'il y a des formes d'hébergement adaptées à la personne dépendante qui en utilisent un surcoût. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la prise en charge publique, elle intervient à ces trois niveaux. Tout d'abord, par les dépenses de santé. Et là, il y a un niveau de prise en charge publique qui est autour de 100%, ce qui est pas négligeable. Au niveau de l'accompagnement de la personne qui perd de l'autonomie, on est à peu près autour de 80% de prise en charge. Il y a la fameuse APA, mais l'APA, c'est autour de 5,5 milliards. Vous voyez, donc on est loin des 30 milliards de l'ensemble des charges. En revanche, sur l'hébergement, j'ai un taux de couverture un peu plus faible, puisqu'on serait autour de 40-45%, c'est-à-dire qu'il y aurait une grande partie des surdépenses.
Il y aura un reste à charge
plus élevé, notamment dans les fameux EHPAD, où le reste à charge est plus important.
Oui, c'est ça. Et pour le maintien à domicile, on va voir un peu quel est le coût. Romain Gisolme, la moyenne d'un établissement EHPAD, de type EHPAD, c'est 2 500 € par mois. Quand on soustrait les aides, etc., il reste à peu près 2 000 € de reste à charge pour le patient, c'est exact?
À peu près, c'est ça, oui. En moyenne, on est autour de 2 000 €, 2 100 € de moyen pour un séjour d'un mois.
Il faut déjà les avoir.
Et c'est un vrai souci parce que effectivement, on sait que la pension de retraite moyenne est de l'ordre de 1 100 € par mois.
Donc, aujourd'hui, on
est en situation de demander à des gens de payer deux fois plus que ce qu'ils ont comme
ressources. Avec les familles, les aidants qui payent aussi pour les pensionnaires.
Et donc, effectivement, les familles qui participent et la nécessité de se détacher de son patrimoine, etc. Donc, ça fait partie, effectivement, des deux questions. C'est l'une des deux questions auxquelles doit répondre la loi de 2019, promise par Emmanuel Macron. C'est, un, comment augmenter le temps de professionnel auprès des personnes âgées au quotidien en établissement et à domicile, et deux, effectivement, comment réduire ce coût payé par les personnes âgées. Il existe des pistes de financement, parce que il faut bien comprendre que ce qu'il conviendrait d'engager dans le secteur, c'est de l'ordre de 10 milliards. Alors, d'abord, il faut se rappeler que 10 milliards au regard du budget de la Sécu, ça reste absorbable. Et puis, deuxième élément, c'est que c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'est pas de l'argent
à fond perdu,
c'est engager de l'argent dans ce secteur. Et dès lors qu'on engage un euro, pour l'essentiel, c'est du salaire. Ça veut dire que nous allons créer de l'emploi, que nous allons créer des cotisations sociales, etc. etc.
Là, on a dit 2 000 € de reste à charge en établissement type EHPAD. Pour ceux qui veulent rester à la maison avec une aide à domicile, voire une hospitalisation à domicile, c'est plus cher, parfois le double. Romain Gisolme ?
On est sur des coûts qui sont très élevés. Alors, il y a des mécanismes de crédit d'impôt, etc.
Mais pour autant,
l'accompagnement en établissement comme à domicile reste très insatisfaisant et bien insuffisant au regard des besoins des gens. Parce qu'il ne s'agit pas juste aujourd'hui à domicile d'être accompagné pour faire sa toilette et s'habiller et ne rien faire de sa journée derrière.
C'est ça qui est angoissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense à la possibilité de pouvoir ou pas s'assurer une fin de vie décente à la maison en établissement sans faire porter la charge aussi sur sa famille.
Alors, c'est tout l'enjeu. Effectivement, comment permettre aux gens de faire autre chose de leur journée que uniquement d'être accompagnés pour leur toilette et pour s'habiller. Parce que ça va être celui-ci l'enjeu de l'avenir et c'est en cela qu'il faut créer des emplois. Et effectivement, la situation à domicile aujourd'hui, c'est que d'abord les coûts sont de plus en plus élevés pour les familles et pour les personnes âgées elles-mêmes et que par ailleurs, pour l'essentiel des gens qui sont accompagnés à domicile, il faut bien avoir en tête qu'ils passent 23 heures sur 24 seuls.
Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les pistes envisagées par ce rapport remis aujourd'hui par un ex-conseiller social de Simone Veil, ancien directeur de la Sécurité sociale? On va y venir dans un instant avec la nécessité de valoriser les métiers liés à la dépendance, les auxiliaires de vie, les aides au maintien à domicile. Nous aurons Nathalie qui est avec nous au 3921, aidante dans la vie d'ailleurs auprès de son mari et aide médico-psychologique. Et puis Franck, juste après la pause, qui veut nous parler d'un habitat partagé qu'il a créé pour les personnes âgées en Ardèche. Son témoignage sera éclairant parce que ça fait partie des structures qu'on peut imaginer aussi multiples à l'avenir. À tout de suite. Alors que rapport sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes est remis aujourd'hui à la ministre de la Santé, nous nous demandons comment créer les conditions d'un vieillissement serein, harmonieux et digne. Wendy Bouchard.
Avec dans 10 ans, en effet, Julie, en 2030, pour la première fois en France, les plus de 65 ans qui seront plus nombreux que les moins de 20 ans en France et la situation de dépendance qui va doubler dans les 15 ans à venir. Ni impôts, ni prélèvements supplémentaires, c'est ce que met en avant Bercy aujourd'hui. Alors il faut imaginer des pistes. On va
va reparler avec vous, Romain Gisolme pour l'association des directeurs au service des personnes âgées, et avec vous, Vincent Touzet, économiste à l'OFCE, de ce qu'envisage le gouvernement, notamment l'allongement de la durée de cotisation ou le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 63 ans. Mais j'aimerais qu'on parle aussi du concret, du terrain. Et des possibilités d'hébergement. Notamment avec vous, Franck, qui êtes au standard avec nous au 3921. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Vous avez créé, Franck, vous, en Ardèche, le balcon. C'est un habitat partagé pour personnes âgées, pour personnes handicapées. Comment avez-vous pensé cette structure, d'abord ?
Alors déjà, c'est une réflexion que nous avons eue à deux, avec ma compagne, Valérie. Et c'est suite à ce qu'on a aperçu au départ par rapport à l'accompagnement qui existe en France dans les EHPAD ou dans les structures impersonnelles, enfin que nous trouvons impersonnelles.
Oui.
Ça nous a motivés pour créer un lieu, vu qu'on travaille auprès des personnes. Alors, on a travaillé surtout auprès des enfants pendant des années. Et puis, depuis quelques années, là, ce qui nous a vu la situation de l'accompagnement auprès de la personne âgée, on s'est vraiment dirigé vers cette population-là.
Quel âge ont en moyenne vos pensionnaires ?
Alors, on est au tout début, on vient d'ouvrir début mars.
D'accord.
On vient de passer les 6 derniers mois à la rénovation de la maison, pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. Et là, pour l'instant, donc la première personne qui est arrivée a 83 ans.
D'accord. Habitat partagé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous êtes sur place avec votre épouse, Franck ?
Voilà, ça, nous habitons sur place. Nous vivons sur place et nous occupons de la maisonnée, de faire des repas, de faire des petites sorties de temps en temps.
D'accord, mais vous avez des aides-soignants, des auxiliaires, des professionnels de santé pour vous entourer ?
Tout à fait. Mm-hmm. Oui, nous avons toute une équipe autour de nous. Déjà un infirmier qui passe 3 fois par jour, un médecin traitant, une kiné, un pédicure, un dentiste aussi. Enfin, nous sommes entourés de
professionnels. Oui. Est-ce que vous avez bénéficié de subventions pour retaper et pour créer cet habitat partagé aujourd'hui pour personnes âgées et en situation de mobilité ?
Alors c'est vrai que comme c'est une initiative vraiment citoyenne qui vient de nous et puis de la motivation aussi des personnes, parce que dès le départ, il y a deux personnes âgées qui étaient prêtes à nous suivre dans ce projet.
Mm-hmm.
Et alors pour les travaux, par exemple, nous avons fait appel à un financement participatif via Internet.
Oui, ce que je comprends bien, c'est que c'est quand même un peu de système D. C'est-à-dire que vous vous êtes débrouillé avec vos volontés, avec votre philosophie. Aujourd'hui, les professionnels de santé sont tous libéraux. Ils sont payés par les différents pensionnaires ou c'est un système de forfait ? Comment ça va se passer ?
Oui, c'est par les pensionnaires, mais via la sécurité sociale. Parce que pour toutes ces aides-là, ils peuvent être remboursés.
D'accord. Et combien coûte le loyer pour cet habitat partagé mensuellement pour chaque pensionnaire ?
Alors, tout compris, parce que nous, notre accompagnement, on est rémunéré par chèque emploi-service.
D'accord.
Ce qui est un avantage, parce que depuis, on va dire, un an et demi, les personnes âgées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt, qui est quand même intéressant pour baisser le coût.
Parce on est à un coût de combien par mois ?
Voilà, c'est à 2220.
Oui, c'est à peu près conforme à ce qu'on vient de citer pour les EHPAD plus classiques. Mais là, on est dans un lieu de vie partagé. Romain Gisolme, vous pouvez peut-être réagir parce que vous connaissez toutes les structures au service de personnes âgées. Ce type de structure alternative, tout récent, ça a quelques semaines, Franck, et on vous souhaite du succès et de l'enthousiasme autour de ça. C'est peut-être un avenir envisagé.
En tout cas, il est clair que à la fois les personnes âgées et les familles et les professionnels se disent insatisfaits de l'accompagnement tel qu'il est conçu aujourd'hui, tel qu'il a été conçu depuis 20 ans maintenant, à domicile et en établissement, est insatisfaisant. Donc, force est de constater qu'il faut bien engager une réforme qui, à la fois, oui, repense le financement, mais aussi repense le modèle d'accompagnement. Et nous voyons, dans un même temps, que depuis une dizaine d'années, émergent un certain nombre de structures, de solutions un peu différentes entre le domicile et les établissements classiques, tels qu'on les connaît, qui sont soit des habitats intergénérationnels, soit des résidences-services, soit des habitats regroupés, etc., etc. Comme l'illustre très bien le témoignage de Franck. Donc oui, il peut y avoir des solutions qui peuvent convenir peut-être un peu mieux à la fois à ce que disent les Français, puisque les Français disent, semble-t-il, vouloir vivre dans un chez-soi. Mmh. Donc on peut effectivement imaginer des formes de logement, d'habitat, qui permettent à la fois de concilier les avantages du domicile, c'est-à-dire être à proprement parler chez soi, tout en bénéficiant de l'avantage des structures collectives, être sur des habitats regroupés qui permettent d'accéder à des services mutualisés plus facilement. Et donc, c'est en cela qu'il y a certainement à imaginer à la fois de repenser le modèle d'accompagnement en établissement pour les faire devenir plus proche d'un fonctionnement de domicile et en même temps renforcer l'aide à domicile, parce que Franck le dit très bien, ça peut fonctionner s'il y a le passage de professionnels de l'aide à domicile pour effectivement compléter les services qui sont apportés.
Et où l'on conserve une certaine liberté, avec Jean Arcelin, vous entendiez la promotion de son ouvrage il y a un instant, puis nous avions fait l'émission ensemble, qui a dirigé un EHPAD pendant 3 ans, et il nous disait que, par exemple, il y a un quota de couches distribuées par jour, aujourd'hui c'est 4, on ne dépasse pas ce quota-là, on marche sur la tête, là dans ces établissements-là, si on a besoin de 8 couches par pensionnaire, on pourrait aussi, on a envie de sortir des carcans administratifs qui empoisonnent quand même la vie et le vieillissement.
Il est clair qu'aujourd'hui, les politiques de la vieillesse, les politiques publiques de la vieillesse ont été construites autour beaucoup de la notion de sécurité. Et donc, ce qui a importé, c'est effectivement de beaucoup réglementer, voire surréglementer, et que ça a apporté un nombre de contraintes bien trop importantes, en tout cas, au-delà de ce qu'il est raisonnable d'imposer aux personnes âgées qui viennent vivre dans ces établissements. Et c'est aussi ce qu'elles nous disent quand elles nous disent « Nous préférons nous tourner vers des structures alternatives qui sont plus souples, telles que peut l'être cher, le domicile.
» Juste une dernière question, Franck. Combien de pensionnaires pourrez-vous accueillir à l'avenir ?
Alors, le maximum, ce serait 3 personnes. Ça sera 3 personnes, en sachant qu'il y a donc une personne dédiée à l'accompagnement chaque jour, soit ma compagne Valérie, soit moi, et soit une 3e personne qui nous remplacerait de temps en temps.
Alors là, on est sur des microstructures très très humaines. On a envie qu'elles se développent évidemment. C'est dans le village des Vannes, des Vents, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Les Vents, dans le sud
Ardèche. Vents, en Ardèche. Merci Franck, et ça s'appelle le balcon Habitat partagé pour personnes âgées et handicapées en Ardèche. Mais évidemment, comment faire face au vieillissement de la population? Petite structure de 3 personnes, comme nous avons aujourd'hui 1 400 000 personnes en situation de dépendance, un chiffre qui va doubler dans les 10 prochaines années. A tout de suite avec nos invités Romain Gisol et Vincent Touzé. Je vous donne la parole, économiste à l'OFCE, dans un petit instant. Se prépare-t-on suffisamment au vieillissement de nos populations? On a des témoignages sur Facebook qui répondent à cette question en tout cas. Françoise nous dit « La loi accessibilité, si elle était correctement mise en œuvre, permettrait à nos anciens de bien vivre chez eux. » Christelle nous dit « Étant soignante à domicile en gériatrie, il y a de moins en moins de moyens financiers pour permettre de finir ses jours chez soi. Quelle tristesse !»
Ben alors justement, c'est intéressant à la fois les moyens financiers, le reste à charge pour le patient et la valorisation de ces métiers-là. Vincent Touzé, on peut en parler parce que là aussi, on est dans une économie qui peut être exponentielle. On va doubler les situations de dépendance d'ici à 40 ans. C'est demain. Et il faut anticiper et aussi former pour demain les métiers qui seront des métiers d'avenir. Et on n'y est pas. On n'y est pas du tout.
Alors c'est vrai qu'à un horizon de 40 ans, les enjeux sont encore plus importants qu'à l'horizon de 10 ans, où là, c'est un peu, les objectifs sont plutôt de dizaines de milliards, mais à l'horizon de 40 ans, c'est plutôt 30, 40 milliards.
De financement pour financer ce choc démographique.
De financement. Et c'est vrai que la question établissement domicile est assez centrale, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression que ça coûte moins cher à domicile qu'en établissement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, en fait, tout l'engagement, je dirais, bénévole des aidants familiaux, qui constitue une vraie face cachée du coup de la dépendance et parfois peut-être les gens qui peuvent être un peu démunis sur la façon d'accompagner leurs aînés qui manquent de formation, puis aussi la fatigue, parce que souvent le premier aidant familial, ça peut être le conjoint ou la conjointe de la personne dépendante. Et c'est vrai que, et après ça peut être les enfants, Et c'est vrai que si toutes ces personnes devaient être rémunérées, devaient être remplacées par, par des professionnels, eh bien le montant de dépenses que ça pourrait coûter à l'ensemble de la société serait beaucoup plus élevé et serait peut-être, bon, ça reviendrait à doubler une partie du coût public de la dépendance.
On a 11 millions d'aidants aujourd'hui. Hein. 11 millions d'aidants comme Cathy qui nous écrit « J'ai une maman de 97 ans qui est décédée et je l'ai accompagnée jusqu'au bout. L'accompagnement à domicile est possible. Il faut avoir des personnes aussi qui interviennent à domicile et des aides bénévoles. Tous les ans, nous organisions des réunions pour faire des travaux manuels, des spectacles dans les maisons de retraite, apporter des animaux. Elle a fait beaucoup pour sa maman, mais aussi à l'extérieur, dans les maisons de retraite, comme bénévole. Sans ce lien social, on y revient toujours, hein, sans ce tissu de solidarité, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Ça serait bien pire, Romain Gisol, mais il faut le dire et saluer tous ceux qui aident. Et Nathalie va nous le dire dans un instant.
Bien sûr, l'engagement des professionnels, tout professionnel confondu, à la fois en établissement et à domicile, est particulièrement important et à souligner et à saluer. Mais il y a également, oui, bien sûr, aussi tout l'engagement des familles, dont il faut se rappeler effectivement que certaines études montrent qu'un aidant sur trois décède avant la personne aidée. Donc ça veut dire qu'ils sont dans des situations donc, d'épuisement extrêmement importants. Et puis l'engagement aussi bénévole, parce qu'il y a un certain nombre de bénévoles effectivement qui participent à améliorer le quotidien des personnes âgées en établissement et à domicile.
Nous sommes avec Mehdi au 39-21. Mehdi, vous avez 35 ans, bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous nous appelez de Saint-Nicolas-du-Pélem. Quel est votre métier, Mehdi ?
Moi, je suis assistante de vie aux familles.
Assistante de vie aux familles, c'est-à-dire que vous êtes aide à domicile ?
Oui.
Oui. Et vous vouliez nous parler de structures particulières aujourd'hui ou d'EHPAD ?
Non, de structures, comme il parlait tout à l'heure le monsieur, en
fait. D'habitat partagé, oui.
Oui, en fait, moi, j'ai eu ce projet-là que de créer une maison comme ça sur les Côtes d'Armor. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'accord du département pour pouvoir créer la maison. Et donc moi j'habite dans les Côtes d'Armor, donc il y a le Morbihan, le Finistère qui sont à côté, qui ont déjà des maisons bien mises sur les territoires. Donc j'ai voulu faire pareil moi sur les Côtes d'Armor, mais en fait si le département ne donne pas l'accord, j'aurai pas l'agrément pour pouvoir ouvrir ma maison.
Ah oui, donc on est dans un blocage administratif qui aujourd'hui vous empêche d'ouvrir votre maison partagée, c'est ça ?
Voilà. Et ils m'ont prévenu que si, en gros, je le faisais quand même, parce je crois qu'il y a une maison qui existe dans les Côtes d'Armor.
Oui.
Et ils m'ont bien précisé que s'il se passait quoi que ce soit, ça me retomberait dessus. Ouais, donc, moi, après, j'ai une famille et tout ça, donc c'est vrai que je ne rentre pas là-dedans et j'ai laissé tomber mon projet.
Quel dommage.
Mais c'est vrai que c'est des structures qui... J'ai travaillé dedans dans le Morbihan et ça me plaît.
Et ça, c'est, on espère, un axe qui serait étudié dans ce rapport remis aujourd'hui au ministre de la Santé. On a peu de pistes qui sont ressorties, mais Romain Gisol, on peut imaginer qu'il y aurait demain moins de carcans pour permettre, comme par exemple à Mehdi, d'aller au bout de son projet.
Ça fait partie des éléments, effectivement, qui ont nourri la discussion de concertation qui permet d'aboutir au rapport qui est rendu par Dominique Libault aujourd'hui, de comment, effectivement, on peut permettre de faire évoluer les structures d'accompagnement, à la fois en permettant aux établissements de se transformer, en permettant l'émergence de nouveaux types d'habitats regroupés, donc nous évoquons avant
une meilleure articulation entre
et
eux.
Et puis, effectivement, également, comment nous renforçons le secteur de l'aide à domicile pour permettre un meilleur accompagnement, notamment sur ces nouvelles structures. Donc, ça doit faire partie des pistes, nous l'espérons, qui devraient émerger dans ce rapport et permettre effectivement à la puissance publique de prendre des décisions qui amèneront à pouvoir diversifier cette offre et donc effectivement faciliter un certain nombre de développements, voire l'encourager et le soutenir.
En attendant, Mehdi, donc vous êtes aide à domicile pour les personnes vieillissantes. Comment s'articulent vos journées et combien êtes-vous payé chaque mois, Mehdi ?
En fait, j'ai un temps partiel parce qu'ils ne donnent pas de temps plein. Ce qui fait que si on
qui ne donne pas de temps plein ?
Mon employeur.
D'accord. Oui.
Ne donne pas de temps plein. En fait, si on est que sans compter les trajets, parce que les trajets sont pris en compte, on a 840 à peu près. Et puis, quelquefois, selon le nombre de routes qu'on peut faire, on peut atteindre les 1000, les 1100 euros.
D'accord. Et vous passez combien de temps à domicile avec les différentes personnes que vous visitez ?
En règle générale, on reste à peu près une heure.
Ah oui. Donc c'est de l'accompagnement ou c'est pour la toilette ? Quelle est votre mission ?
On fait un peu tout. On fait les matins, c'est les petits déjeuners, les toilettes, oui. Les levées. À midi, c'est les repas. Entre les deux, de 10h à midi, c'est souvent du ménage. Mmh. Et l'après-midi, de 14h à 16h, c'est des ménages aussi. Et après, on passe aux 4h et puis au repas du soir.
Et vous pourriez travailler davantage? Vous souhaiteriez travailler davantage?
Ben oui, moi, ça me dérangerait pas. En fait, on a une journée, du coup, où on ne travaille pas.
Et je peux savoir pourquoi votre employeur ne donne pas de temps plein dans ce secteur?
Je pense que c'est à cause des intervacations, en fait, au niveau de la route. Parce que s'il nous donnait des temps pleins, plus entre chaque usager, on passerait trop de temps à travailler, en fait.
Oui, c'est aussi là, on marche un peu sur la tête.
C'est surtout dû au budget qui sont attribués par la puissance publique aujourd'hui aux services d'aide à domicile. Ouais. Une enquête menée par l'État lui-même en 2016 indiquait que la puissance publique finançait à hauteur de 21 euros en moyenne une heure d'aide à domicile, quand le coût de fonctionnement d'un service d'aide à domicile est en moyenne de 24 euros. Donc il n'y a pas de mystère. Mmh. Vous êtes de fait déficitaire. C'est en cela que j'insiste sur votre antenne, sur le fait qu'il faut aussi revoir dans la question de comment mieux aider les personnes âgées, la question de l'aide à domicile. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que effectivement, gestionnaires et les directeurs et directrices de structures de services à domicile ne peuvent pas payer suffisamment correctement les salariés de ce secteur. Je vous rappelle qu'en moyenne, ces salariés gagnent moins que le SMIC.
Oui.
Donc, il est urgent de revaloriser ces salaires. Et deuxième élément, que nous devons effectivement proposer des temps partiels contraints à ces salariés.
Mais comment,
et ça, c'est l'une des urgences auxquelles devra répondre l'État, là, immédiatement, dès 2019.
Comment on répond justement à ces exigences, à ces besoins de financement, alors que Bercy ne veut ni impôts ni prélèvements supplémentaires? Dans le contexte actuel, on comprend un peu l'idée. Vincent Touzet, vous allez réagir à cette piste, évoquer notamment une seconde journée de solidarité qui pourrait permettre de financer peut-être ces structures à l'avenir et notamment revaloriser ces métiers. A tout de suite avec Corinne et Virginie qui veulent réagir au Standard d'Europe 1. Julie vous attend. Nous revenons sur ce rapport remis ce jeudi à la ministre de la Santé qui devrait permettre entre autres un meilleur maintien à domicile des personnes dépendantes et une valorisation des métiers de l'aide à domicile aujourd'hui peu attractif. Wendy Bouchard. 1 400 000 Français en situation de dépendance aujourd'hui, ce chiffre va doubler dans les 40 ans avec l'effet attendu aussi des baby-booms qui commencent à vieillir. La dépendance est un dossier fort, sensible, qui menace aussi le système de retraite. On en parle avec Romain Gisolm et directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, et avec Vincent Touzet, économiste à l'OFCE. On ne veut pas réduire ça à une question de gros sous, mais évidemment pour valoriser, pour créer des structures, il faut de l'argent, et la question du financement est sur la table aujourd'hui avec ce rapport, Vincent Touzet.
Alors, apparemment, il y aurait l'idée de rajouter une journée de solidarité.
Hein, oui, pour rappeler, seconde
cette
journée.
Cette journée de solidarité, elle avait été adoptée après cette fameuse canicule de 2003 qui avait beaucoup sensibilisé l'opinion sur la solitude et le problème de dépendance de nombreuses personnes âgées. Mmh. Et on avait fait appel à une grande solidarité.
Une journée travaillée pour...
Qui s'est transformée en fait en une contribution solidarité autonomie qui représente 0,3% de la masse salariale. Mmh. Alors, s'il y avait une deuxième journée, il y aurait donc une nouvelle contribution de 0,3%.
Oui, donc c'est encore les Français qui contribuent, qui payent pour leur avenir, qui payent pour la prise en charge de leur dépendance, toujours.
On a une forte socialisation du revenu qui correspond à un modèle social français, donc faut passer par des cotisations sur différentes sources de prélèvements. Après, c'est vrai que dans les sources de prélèvements, il y a aussi la CSG qui a été affectée au financement de l'APA, la CSG sur les revenus de capitaux. Et puis, on avait mis à contribution aussi par le passé, je crois que c'est à partir de 2014-2015, on avait créé une contribution additionnelle de solidarité autonomie, la fameuse CASA, qui est de 0,3% sur les pensions retraite, c'est-à-dire que avec l'idée que les retraités pourraient payer une partie aussi de la dépendance des retraités les plus âgés et en situation de besoins financiers.
Autre idée, Vincent Touzet, celle-ci, on la comprend, reporter l'âge de la retraite de 62 à 63 ans, c'est une proposition qui est peut-être impopulaire, mais qui, arithmétiquement, peut porter ses fruits.
Alors, je sais qu'il y a eu une polémique un peu sur l'âge de la retraite ces dernières semaines, mais c'est vrai que le fameux âge des 62 ans ne résout pas tout, puisqu'en fait, il y a beaucoup de retraités aujourd'hui qui prennent leur retraite au-delà de 62 ans, pour des raisons très simples, c'est qu'ils sont entrés tardivement sur le marché du travail, ils n'ont pas tout leur trimestre, donc la question de l'allongement ne passe pas que par les 62 ans. Et il faut peut-être rester aussi dans les systèmes de retraite où les gens peuvent choisir et non pas subir l'âge de la retraite. Mais bon, c'est un autre sujet.
Ouais. N'hésitez pas en tout cas à réagir aux propos de Marc et de Corinne. Marc, je vais vous prendre tout de suite à l'antenne au 3921. Vous nous appelez d'Annecy. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Je vous donne la parole tout de suite parce que vous êtes chez des patients. Voilà. Vous êtes infirmier libéral et le sujet que vous entendez là vous intéresse.
Oui, tout à fait, parce que on parle de maintien à domicile et ça paraît quelquefois incompréhensible lorsque l'on voit qu'au niveau de certains soins, ils ne sont pas pris en compte. Alors, on veut du maintien à domicile, mais les personnes âgées sont des personnes ayant plus de besoins. Il y a des exemples très concrets. Quand vous voyez que l'installation de collyre, donc la pose de collyre, chez les personnes âgées ne sont pas pris en compte, ce n'est pas remboursé, alors que des personnes ne peuvent pas les mettre. La Sécurité sociale vous dit, écoutez, vous le faites payer aux familles, ils n'ont pas les moyens. La pose de bas de contention, bon, la contention veineuse fait partie des soins, ce n'est pas pris en compte non plus. Ouais. Donc il y a des tas de soins comme ça qui ne sont pas pris en charge du tout. Le déplacement des infirmiers à domicile, c'est 2,50 €.
Et alors, ça vous fait rire nerveusement et on comprend parce que c'est quand même assez
absurde. Parce que avec nos collègues et la ministre de la Santé actuelle, bon, elle, ça la fait rire quand les infirmiers font des revendications, elle lève les yeux au ciel. Il y a une vidéo fameuse qui court, là, elle est interviewée et elle dit oh, les infirmiers ont des revendications, elle lève les yeux au ciel. Oui, sauf qu'il faut savoir que les infirmiers, on est la seule profession paramédicale à travailler tous les jours. Tous les jours, c'est-à-dire que les médecins, quand ils ne travaillent pas, ben, ils vous envoient au 15 ou à l'hôpital. Des kinés, après ils peuvent s'arrêter ou autre. Et nous, infirmiers, infirmières, on travaille tous les jours. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, il y a la continuité des soins. Alors, on veut un maintien à domicile, mais les gens à domicile, il faut qu'il y ait une réponse également des besoins. Et donc, on n'a pas... Voilà.
Et vous faites partie, évidemment, des personnels de santé dont il faut revaloriser le salaire pour tout ce que vous faites aujourd'hui et pour votre
fait,
mobilité.
Vous voyez, je ne vous parlais même pas de la revalorisation actes.
Absolument.
Parce qu'on n'a pas été augmenté depuis 25 ans ou plus. Ouais. Mais sans parler de ça, je vous parlais vraiment de choses précises. Quand on veut le maintien à domicile des patients, quand on dit qu'on s'occupe de personnes âgées, quand vous voyez, comme je vous disais, des colliers, des choses, mais basiques. C'est des gens qui ont besoin. La distribution des médicaments n'est pas remboursée.
Ouais.
Des gens qui ne peuvent pas prendre les médicaments, sauf si vous êtes malade psychiatrique, on ne vous rembourse pas. Et nous, en tant que soignants, si on le fait, on a des pénalités avec la CPAM. On doit l'argent si on veut aider les gens. Les bas de contention et les colliers, tout ça, je vous dis des choses, mais vraiment basiques, ce n'est pas pris en compte.
Mais c'est votre quotidien et c'est le quotidien de ces patients, en effet.
Et bien, on refuse. Alors, les familles ne comprennent pas. Ils disent, mais par contre, c'est bien des soins infirmiers. Ah oui, mais ce n'est pas remboursé. Qu'est-ce que vous voulez que... Alors, on parle de maintien à domicile. Je crois que le ministre de la Santé ferait bien de se pencher sur le sujet également.
Merci, Marc, pour votre témoignage et saluer les personnes chez qui vous êtes aujourd'hui. Annecy, au 3921.
Et puis, merci pour votre émission, parce que je l'écoute tout le temps en voiture quand je travaille. Et merci, parce que tous vos sujets sont encore intéressants.
Et ben, c'est très gentil. Bon courage à vous et bravo pour cette mission du quotidien, Marc.
Merci encore.
À tout de suite avec nos invités. Philippe au 3921, Romain Gisolme, Vincent Touzé, Nathalie, qui veut témoigner comme aidante dans la vie également. N'hésitez pas à réagir. Considérez-vous qu'on se prépare suffisamment au vieillissement de notre population pour rester à domicile le plus longtemps possible? Que faudrait-il aujourd'hui mettre sur la table clairement? C'est le sens d'un rapport remis aujourd'hui au ministre de la Santé et on en parle jusqu'à 10h sur Europe 1. Le tour de la question sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes en France. Les dernières minutes de l'émission, Wendy Bouchard. Alors évidemment, nous avons évoqué avec ce rapport remis aujourd'hui à la ministre de la Santé la question du financement, permettre aussi un meilleur maintien à domicile des personnes dépendantes avec un financement et avec un encadrement un peu plus évolué. Valorisation des métiers de l'aide à domicile qui sont aujourd'hui peu attractifs. On aura peut-être Catherine dans un instant au 3921. Vous vouliez réagir à ce que nous disait Marc Romain Gisolme, il est infirmier libéral et il traduisait un certain nombre d'absences de prise en charge, d'éléments du quotidien qui permettent
En un mot, effectivement, Wendy Bouchard, parce que au-delà des chiffres que nous évoquons, au-delà des éléments économiques et théoriques qui peuvent être perçus, La question de l'investissement de certaines sommes, on évoquait autour de 10 milliards, c'est aussi, ça se traduit très concrètement, c'est aussi répondre à ce qu'évoquait Marc en termes de manque de financement, etc. C'est vraiment jouer sur le quotidien des gens, c'est jouer sur le quotidien des personnes âgées en établissement à domicile, c'est jouer sur le quotidien également des aidants, c'est jouer sur le quotidien des professionnels. Et donc c'est extrêmement important que notre société fasse ce choix, parce que nous sommes aujourd'hui à un tournant qu'il ne faut pas louper. Et des pistes de financement, il y en a plusieurs. A été évoquée celle que nous évoquions précédemment. Je vous rappelle qu'en 2011, quand Nicolas Sarkozy envisageait créer un cinquième risque de sécurité sociale pour mieux aider les personnes âgées, il avait saisi le Conseil économique, social et environnemental qui lui aussi avait trouvé une piste de financement. Et celle-ci avait été acceptée à l'unanimité.
Et pourquoi c'est retombé ?
Parce que sous ce quinquennat, la création de ce cinquième risque a finalement été laissée tomber. Mais quand on a posé la question à la représentation civile, qui est le Conseil économique, social et environnemental, une piste de financement avait été acceptée à l'unanimité. Donc on
C'est-à-dire
peut trouver...
prendre en charge tout ce qui est lié à la dépendance. Hein.
Donc on peut trouver effectivement des pistes de financement qui soient à la fois acceptées et acceptables pour les Français, parce que c'est bien là l'essentiel. Et la difficulté avec les pistes que vous évoquiez, c'est qu'elles ne sont pas acceptées et acceptables pour l'ensemble des Français. Et c'est en cela que l'État doit trouver une piste de financement qui fait consensus.
Et puis raisonner aussi le coût engagé, notamment dans les EHPAD. On en parlait, 6 000 euros par mois, mais pourquoi faire ? Pour mieux payer les infirmiers, pour mieux payer les aides-soignantes, oui. Pour casser un peu ce ratio, en France, on a 27 aides-soignants ou infirmiers pour 100 lits, contre 40 en Espagne, contre 38 en Allemagne. On est vraiment à la traîne sur ce sujet-là. J'aimerais faire réagir Catherine. Vous nous appelez de Martignas-sur-Jal. Bonjour Catherine. Au standard.
Oui, bonjour Wendy, bonjour à tous.
Et vous Catherine, vous êtes devenue assistante de vie, donc vous accompagnez aujourd'hui des personnes âgées. C'était pas votre métier d'origine ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Je me dirige actuellement vers ce métier.
D'accord.
J'ai assisté hier à un job dating sur Bordeaux, puisque sur Bordeaux, ils font quand même pas mal de job dating pour recruter des assistantes de vie.
Très bien.
Ils ont beaucoup de mal à recruter, donc je me suis proposée, bien sûr, pour me diriger vers ce métier qui, pour moi, est très passionnant au niveau humain.
Vous êtes en reconversion, hein, professionnelle.
Voilà. Oui. Enfin, pas en reconversion, je suis demandeur d'emploi. Et ce qui se passe, c'est que j'ai 55 ans.
Oui.
Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui j'ai 55 ans. Donc le contrat de professionnalisation qui permet de me garantir un salaire, je n'y ai pas droit. Et donc ce que l'on me propose, c'est une formation sur 3 mois.
Oui.
Qui s'appelle POE. Et pendant cette formation, le seul salaire que j'aurai, ce sont mes indemnités que j'ai actuellement, c'est-à-dire moins de 600 euros par mois.
Ah oui, évidemment.
Qui peut prétendre à vivre avec une somme pareille ? Bien sûr, je suis mariée, donc pour moi, c'est quand même très confortable.
Non, mais c'est très dommage que ce n'est pas attractif du tout, alors que vous voulez participer à... Ouais.
Exactement. Et du coup, je me pose la question... Est-ce que je continue à travailler en intérim ou là je me garantis quand même un salaire de plus de 1000 euros dans un autre domaine ou réellement je me dirige vers cette activité ? Et je trouve que c'est quand même un très très gros problème.
Ah ben, c'est un problème que vous connaissez aussi, Romain Gisolme. C'est-à-dire qu'on met tellement de freins dans ce pays et on casse les enthousiasmes comme celui de Catherine.
Absolument, alors que ça peut être un très beau métier, je le confirme à Catherine et j'ai envie de l'encourager à continuer parce qu'effectivement c'est un métier dans lequel on peut retrouver beaucoup de sens à son activité professionnelle, quel que soit le métier qu'on exerce dans ce secteur de l'aide aux personnes âgées. C'est un métier qui peut être extrêmement riche de formation humaine, etc.
Mais en attendant, elle ne va pas travailler à perte.
Mais effectivement, les gens ne travaillent pas que de cela et ne vivent pas que de cela. Et c'est en cela que nous espérons bien que dans le rapport qui va être remis, parmi les pistes effectivement envisagées et soumises, seront notamment indiquées, d'abord, je l'évoquais tout à l'heure, dès 2019, une revalorisation salariale. Mmh. Et puis, surtout, deuxième élément, une revalorisation des métiers, des carrières, des formations. En tout cas, permettre de donner envie aux jeunes de venir travailler dans ce secteur. Il y a plein de métiers différents dans ce secteur. Ça veut dire que ça repasse à la fois par une revalorisation des salaires,
ouais,
mais surtout et aussi par une revalorisation sociale. Il faut que les gens aient envie de venir travailler dans ce secteur et qu'on leur dise qu'ils font un beau métier. J'entendais hier quelqu'un indiquer à quelqu'un qui travaillait dans l'aide dans la petite enfance dire qu'il faisait un beau métier. Moi, j'ai envie d'entendre dire les gens que quand on travaille dans l'aide aux personnes âgées, on fait un beau métier parce que c'est le cas.
Oui, mais c'est pas toujours du bénévolat et on encourage Catherine
D'où la revalorisation sociale et salariale.
Vers la mairie de Bordeaux qui pourra peut-être vous trouver des aides. Juste avant d'accueillir Philippe, très rapidement, Christophe nous écrit de la ville de Couzon dans l'Allier, petite commune. Ils vont mettre en place des modules, 4 appartements de 40 mètres carrés dans le centre de la ville pour permettre à des personnes en situation de dépendance de quitter leur maison pour aller dans des lieux adaptés. Voilà, des petites surfaces à Couzon dans l'Allier par exemple. Et je termine avec votre témoignage, Philippe, vous qui êtes au standard avec nous. Bonjour, vous nous appelez de Rouen. Bonjour.
Bonjour Wendy.
Et le sujet vous intéresse en qualité de designer. Alors ça m'interroge un peu, pourquoi ?
Alors, moi ça fait longtemps que je m'intéresse à la problématique du maintien à domicile. Et avec deux confrères, nous avons créé une start-up qui est basée sur l'innovation et pilotée par le design. Donc pilotée par le design, ça veut dire que avant tout nous avons... pensé par les usages, fait l'innovation produit. Et nous avons créé des habitats qui sont une alternative entre la vie privée et les EHPAD.
D'accord.
Puisqu'on sait que c'est un parcours qui n'est jamais linéaire.
Oui, on en parlait.
Et nos habitats qui sont situés à Rouen, dans la Loire, ils accompagnent l'occupant. On accompagne l'occupant tout au long de sa vie. Et on a un habitat qui est évolutif et modulable. C'est-à-dire qu'en fonction des pathologies, des accidents de vie qui peuvent intervenir, on va venir greffer des éléments dans la maison de manière à soulager son quotidien avec des armoires tournantes.
Oui, et pour permettre à la personne de rester chez soi, mais avec une facilitation des gestes de la vie quotidienne. Oui.
Voilà, exactement.
Comment s'appelle votre entreprise ?
Alors, ça s'appelle les Maisons de Siméon.
Les Maisons de Siméon, c'est à Rouen, et vous mettez aussi en place des habitats évolutifs ailleurs, dans d'autres communes de France, éventuellement ?
Alors, effectivement, ce concept a pour vocation d'être exporté, et on peut l'imaginer de partout en France.
Voilà, mais ça prouve, Philippe, avec ces Maisons de Siméon, qu'il y a une économie aussi de la réflexion, une créativité qui peut se mettre aussi en marche et en mouvement pour répondre à tous ces besoins. Vincent Touzé, je vous laisse le mot de la fin.
Oui, on a parlé de la politique d'accompagnement financier et de la politique sanitaire, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous des enjeux de politique avec le secteur productif pour innover, pour essayer de trouver des nouvelles solutions pour accompagner les personnes âgées en situation de dépendance ou en situation de fragilité, parce que la fragilité, c'est ce qui précède la dépendance, et là on est bien au-delà des 1,4 million. Et bien sûr, il y a des enjeux de bien vieillir et des enjeux aussi de coûts, c'est-à-dire qu'on peut avoir des structures plus efficaces et moins coûteuses, ce qui aussi peut apporter des vraies solutions pour les 30-40 prochaines années et relever le défi du vieillissement.
Merci.
Et qu'effectivement, juste un mot, c'est concevoir une société qui permet effectivement aux personnes âgées d'y habiter, d'y être bien, c'est aussi au bénéfice de tous. On parle design, mais c'est aussi l'enjeu de la silver economy, de faire en sorte que nous étudions et nous concevions des environnements adaptés aux fragilités des personnes âgées, parce que ça servira à tous. Quand les trains permettent effectivement de rentrer en fauteuil roulant, ça sert évidemment aux vieilles dames et aux vieux monsieur en fauteuil roulant, ça sert aussi aux jeunes papas et aux jeunes mamans qui ont à amener leur enfant avec leur poussette. Donc effectivement, penser une société pour les personnes âgées, c'est aussi penser une société pour tous.
Merci Romain Tisolme pour ce mot de la fin. Vincent Touzé, tous vos témoignages étaient très 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 nombreux aujourd'hui au standard au 39-21. A tout de suite pour parler de l'éloquence en question, briller à l'oral pour les nuls. C'est le livre qui sort et qui nous sert d'accroche pour le sujet jusqu'à 11h avec Julie. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.